lecteur doit être dupe de ce qu'il lit. La pire lecture est celle des professeurs et des critiques. Seuls les enfants savent lire. Michel Zinc.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Membre de l'Académie française, professeur au Collège de France, spécialiste des littératures du Moyen-Âge en France, Michel Zinc est aujourd'hui notre invité pour un livre sur ses lectures d'enfance intitulé « Seuls les enfants savent lire ». Bonjour.
Bonjour.
Et c'est donc vous qui affirmez la pire lecture est celle des professeurs, ce qui est quand même assez paradoxal, vous qui avez passé votre vie à enseigner.
C'est vrai. Alors, je bats ma culpe, j'ai passé ma vie à enseigner. La formule est aussi, je le reconnais, un tout petit peu provocante, un tout petit peu démagogique. Et il faut préciser que je parle de la lecture littéraire, c'est-à-dire la lecture d'un poème, d'un roman, pas de la lecture savante ou de la lecture justement universitaire ou de la lecture critique. La lecture littéraire, comme je dis, exige une certaine fraîcheur de la part du lecteur. D'ailleurs, Blanchot, qui n'est pas, enfin, c'est pas si vrai, qui n'est pas un naïf, le dit. C'est pas que ce soit une référence absolue, mais il disait la lecture exige une, enfin, j'oublie la formule, mais qu'on se crée à soi-même une ignorance. D'aborder le texte en ignorant.
Donc il y a une forme de naïveté ou de porosité.
Il faut une exactement, c'est la formule est très très bonne, hein, une porosité et une naïveté. Et alors dire que les enfants ont ces qualités plus que de la porosité, ils l'ont, c'est certain. Et lorsque je dis seuls les enfants savent lire, là aussi la formule est excessive en ce sens qu'il y a des livres qui exigent une préparation, une science, un savoir, un type de réflexion qu'un enfant n'a pas. Mais l'enfant a une vivacité d'émotion. Il ressent les choses avec une telle acuité, une telle violence que c'est un excellent lecteur parce que ce qu'il lit le frappe beaucoup plus qu'un adulte blasé.
En fait, il ne se pose pas la question de la littérature et vous faites un parallèle avec l'amour qui m'a semblé assez juste, c'est-à-dire qu'un enfant sait par nature ce qu'est l'amour, l'amour de ses parents, l'amour du chien, du chat, de son frère, de sa sœur, des copains. Oui. Et c'est au moment de l'adolescence où il se pose la question de l'amour que ça devient incompréhensible.
Ça devient incompréhensible et douloureux. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit de moi-même, celui qui le dit est un poète du XIVe siècle, qui est surtout connu comme chroniqueur, historien, c'est Jean Froissart, qui raconte dans un poème une initiation amoureuse, ou une éducation sentimentale plutôt, nécessairement douloureuse, et auparavant, pendant des centaines de vers, il se souvient de son enfance, où il faisait des cadeaux aux petites filles, elles étaient contentes, etc. Et puis ses jeux d'enfant, et on a l'impression que, pour lui, on jouit de l'amour au moment où on ne sait pas ce que c'est. Et puis après, on a la vie entière pour regretter.
Les problèmes. Voilà. Alors, vous faites l'éloge, Michel Zinc, de cette lecture enfantine, et en même temps, vous vous définissez comme un lecteur pitoyable. C'est votre adjectif. Hein.
Vraiment, oui.
Vraiment, je l'ai souligné.
Oui. Mais je suis un lecteur pitoyable, peut-être dans un certain contexte, je ne me rappelle plus, parce que je ne me souvenais plus, ou parce que je racontais lourdement, ou parce que quelque chose comme ça, probablement.
Je vais chercher la phrase, parce que dans le même temps, vous racontez, vous allez nous raconter comment vous avez écrit ce livre, qui est un livre, en fait, de mémoire.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez convoqué vos souvenirs, les fragments de la mémoire, sans relire les textes que vous parlez.
Sauf très rares exceptions, à vrai dire une seule. Je n'ai pas relu les livres dont je parle parce que j'ai gardé un souvenir très vif de mes lectures d'enfance. D'ailleurs, de toutes mes lectures, j'ai une mémoire sélective pour les choses sérieuses, elle n'est pas si bonne, mais pour me rappeler des poèmes, je sais énormément de poèmes par cœur, et il y a des choses dont je me souviens très bien. Donc, je me suis fié à ma mémoire en sachant qu'elle me trompait certainement, ce qu'elle n'a pas manqué de faire, mais parce que je voulais comparer l'effet, si j'arrivais à le reconstituer, que me faisait tel livre au moment où je l'ai lu, enfant, et ce que j'en pensais aujourd'hui. En repensant au même livre, sans l'avoir relu, mon jugement, quelquefois, avait changé. Et la superposition des impressions était quelque chose qui m'a frappé.
Oui, parce que dans l'enfance, écrivez-vous, les phrases qui vous restent à l'esprit ont une force unique. Et oui. C'est en fait cela que vous racontez.
Exactement.
Comment vous avez été émotionné, enfin le mot n'existe pas vraiment, oui. Il n'est pas très joli, en tout cas frappé par vos lectures et que ces émotions-là sont restées encore à vif aujourd'hui, quelques années plus tard.
Exactement, oui, quelques années plus tard.
Nous allons évoquer, j'ai presque envie de dire, ressusciter certains auteurs dont vous parlez, dont Henri Bosco, Henri Pourrat, Serge Dalins, la comtesse de Ségur ou Colette Vivier, mais l'on va d'abord se laisser bercer par le fleuve doux de Kéranan.
Ces fous qui se mettent à nu, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus de voir les fous partout. On y prend goût, mais je me passerai bien de lui, j'avoue. Il est saoul, il fait des bleus, il mène à bout, il pique les yeux. Il me rend flou, c'est fou. Je me noie dans l'au-delà des ruines de l'eau des villes.
Anne dans De Vive Voix, extrait de Bleu, son nouvel album Bleu comme les tabliers que vous deviez porter, Michel Zinc, à l'école, petit garçon, lisant À l'ombre des ailes ou Le voyage d'Edgar. C'était ce que vous appelez des livres de lecture courante. Le terme a complètement disparu.
Oui, ça existait à l'époque, des livres qui étaient des romans pour enfants et qui étaient en même temps des livres à la fois de grammaire, d'apprentissage du maniement de la langue et de découverte du monde, parce que il y avait un enseignement géographique, quelquefois historique, patriotique, quelquefois morale, toujours, dans ses livres. Et certains de ses livres étaient souvent des livres pour la huitième, la septième, pour le cours moyen, maintenant, première et deuxième année, des livres de bonne qualité. À l'ombre des ailes est un livre d'Ernest Pirochon, qui était un instituteur, type de l'instituteur Troisième République, mais qui était un véritable écrivain, qui a eu le prix Goncourt. Et le voyage d'Edgar est d'un écrivain connu, enfin assez connu, Édouard Pesson, auteur de romans maritimes.
C'est relatif quand même.
C'est relatif. Enfin, mais vous êtes jeune.
Bien sûr.
Mais non, mais c'est pas pour savoir s'il est connu. Si, il y en a un qui est resté connu longtemps, c'est Parti de Liverpool. Qui transposait l'histoire du Titanic. Bon. Mais, surtout, le voyage d'Edgar a cette particularité, alors là, qui est intéressante quand on compare à aujourd'hui, d'avoir été publié simultanément comme livre de lecture courante pour les classes primaires et comme vrai roman. Et comme vrai roman, il a eu cette année-là le Grand Prix du roman de l'Académie française. Donc c'est vraiment un vrai roman.
Mais aujourd'hui, on parle de littérature jeunesse. Et oui. Ça englobe un peu tout. En même temps, ces ouvrages, plus pédagogiques n'existent plus vraiment.
Non, voilà. Mais c'était... ici peu, tout le monde sait qu'on a supprimé les passés du Club des Cinq à mesure qu'on traduit les éditions. Et toutes les métaphores.
Et vous le regrettez, ça, j'imagine.
Moi, je trouve que c'est un appauvrissement terrible. Quand les personnages du Club des Cinq, on disait, ils furent glacés d'effroi... Et puis on regarde l'édition suivante, ils ont très peur. C'est différent.
Club des Cinq, c'est bibliothèque rose.
Verte.
Parce que la bibliothèque, c'est l'époque de la bibliothèque verte, c'est la bibliothèque rose.
C'est bien postérieur à mon temps, c'est de l'époque de mes enfants. Là.
Alors, quand même, ce qui m'a amusé dans votre livre, Michel Zinc, c'est que, malgré une légère différence de génération, nous avons presque lu les mêmes livres. Alors, pas tous, mais... puis vous parlez des années 50, moi un peu plus des années 70, Bosco... D'Alens, Oupoura, sont des livres que j'ai eus aussi dans la bibliothèque des parents, des grandes sœurs, etc. Je me suis dit qu'il y avait quand même une éducation qui se faisait sur le long terme à l'époque. C'est-à-dire qu'un livre durait pour une ou deux générations, pour 30 ou 40 ans.
Oui, et puis il y a aussi qu'on a tendance à faire lire à ses enfants les livres qu'on a aimés enfants. Dans ceux que vous citez, c'est probablement très net pour D'Alens. Les signes de piste, ces romans scouts, c'est vraiment une époque. Et d'ailleurs, avec aussi les inconvénients de l'époque.
D'Alens, il faut dire, donc c'est un jeune scout, blond, avec une mèche extraordinaire, auquel on s'identifie quand on a 10-11 ans, qui est le fils d'un prince ou d'un roi, je ne sais plus ce qui lui arrive.
Ça, c'est le prince. D'Alens, c'est l'auteur. Il s'appelait pas D'Alens, c'est un magistrat, je sais pas où. Et vous décrivez le prince Éric, qui est un prince...
Oui, mais c'est une série.
C'est une série, ben oui, le bracelet vermeil, la tache de vin, le prince Éric, la mort d'Éric. Et alors l'ami s'appelle Christian, je sais pas quoi, le scout français, qui est les cheveux raides, une mèche comme ça. Moi, j'avais pas les cheveux raides, je me trouvais moche. Mais j'enviais ces scouts.
Mais alors, on s'identifie quand on a 10 ans à ce prince Éric et à ses copains, et on s'aperçoit quand on a 20 ans ou 30 ans que, en fait, c'est un auteur plutôt d'extrême droite.
Oui, mais je m'en suis aperçu dès cette époque, enfin, c'est pas qu'on soit, ça me gêne, mais dans les derniers qui ont été écrits au moment de la guerre et la mort d'Éric sous l'occupation, on voit là, les scouts sont en voyage en Allemagne, alors ils se trouvent des copains chics, etc. Grande camaraderie, vont la pisser, hein. Ces scouts allemands, ils sont très bien. Non, ce ne sont pas des scouts, ce sont des jeunesses hitlériennes. C'est dans le texte, hein, c'est comme ça.
Oui, mais ça, on s'en aperçoit pas quand on est justement naïf et enfant.
Si, même en faisant, je m'en apercevais, parce que, vous savez, tout avoué, je suis vieux, je suis né en 45. Donc, lisant cela vers 55, 56, comme ça, la guerre était très proche. Mon père, mes deux parents, mes parents d'ailleurs étaient germanistes. Donc, j'avais été nourri d'histoire de la guerre, dans la, j'ai nourri dans une admiration absolue pour le général de Gaulle, où m'entretenaient mes deux grandes sœurs, nées avant la guerre, elles beaucoup plus âgées que moi, de sorte que, en 58, quand elles étaient contre le retour du général, moi je comprenais plus du tout, ça me semblait une trahison. Donc je voyais très bien pour Dalens.
Alors quelques mots d'un autre auteur, d'une autrice, dit-on aujourd'hui, on disait auteur à l'époque, Colette Vivier. Entrée oui. dans la danse, écrit cette femme qui, pour moi, est tout à fait inconnue. Mais grâce à elle, vous découvrez, Michel Zinc, la différence entre le passé composé et le passé simple, justement, pensant que le passé composé est destiné aux filles et le passé simple aux garçons.
Oui, vous le dites de façon polémique. Ce que j'ai dit, alors, je pourrais le redire, j'ai une admiration sans borne pour Colette Vivier, et en particulier pour un de ses romans, Entrée dans la danse, qui n'a pas eu de chance parce qu'il a paru justement au début de la guerre. Le précédent, la maison sans dessus dessous, n'avait eu plus. L'histoire du passé composé, c'est que ce roman, c'est le journal d'une petite fille, élève... excellente orpheline, bon, mais excellente élève de sixième dans un lycée dont je sais maintenant que c'est le lycée Fénelon. À l'époque, j'habitais Lyon, donc ça me disait pas grand-chose. Bon. Et ce journal est écrit entièrement au passé composé, ce qui lui donne une sorte de naturel. Elle pourrait l'écrire au passé simple. Elle est première en tout et très fière d'être première en tout. Presque un peu trop fière au début, avant qu'elle entre dans la danse et découvre la vie. Et le grand frère de son ami de cœur est un garçon, alors comme tous les garçons, distrait, un peu vaniteux, un peu ainsi, enfin bon, il a des tas de défauts. Mais lui joue à l'écrivain ou au futur écrivain. Il se prend pour Jules Verne, il a d'ailleurs son pendant ça. Et lui se parle ou écrirait au passé simple, mais d'une façon qui est artificielle, en somme, qui montre... La petite fille qui rédige son journal est vraie, et c'est senti, c'est vécu. Tandis que dans le journal, le personnage du garçon, lui, a l'artifice des garçons et parle au passé simple. Mais c'est pas du tout une condamnation du passé simple.
Non, je l'ai jamais pris comme ça, mais je vois bien que derrière l'enfant lecteur, il y avait le professeur qui, comme ça, se dessinait. Et... Alors, il y a beaucoup d'autres auteurs dont vous parlez, bien évidemment Henri Bosco, écrivain oui. régionaliste avec L'âne culotte, L'enfant et la rivière. Il y a aussi, bien évidemment, la comtesse de Ségur, oui, à qui oui. vous consacrez de nombreuses pages, que vous moquez de temps en temps.
Oui, mais j'admire la comtesse.
Voilà. Et puis il y a des phrases que vous aimez, comme il faisait froid, il faisait sombre, la nuit tombée, fine et serrée.
La pluie tombée. Oui. C'est première phrase de l'auberge de l'ange gardien. C'est quand même un écrivain, la comtesse.
C'est pas rien. Et puis il y a aussi un autre écrivain très important qui est Henri Pourrat, qui s'est beaucoup intéressé à la littérature orale de l'Auvergne et qui a publié énormément de contes, qui est un travail salué par la linguiste Dany Adjage.
Ah oui, bien sûr. Ce qui est très frappant et ce qui est une chose généralement méconnue du grand public, c'est l'importance des contes dans l'œuvre de Pourrat et l'importance fabuleuse de cette collecte qui est une véritable collecte de littérature populaire. Ce trésor est en train de disparaître et son œuvre est avant tout une œuvre de sauvegarde. Sauver ce qui ne doit pas disparaître. Ce qui ne doit pas disparaître, c'est toute la culture du peuple. Or, cette culture du peuple, elle s'exprime bien sûr à travers les contes, les légendes, à travers les devinettes, à travers les sornettes, à travers les proverbes, à travers la magie, la sorcellerie, tout cela. Au fond, l'aventure de Pourrat, c'est une aventure double. C'est d'abord l'aventure d'un ethnologue. Et je crois que c'est là un des aspects qui peut séduire un contemporain.
Michel Zinc, quel rôle a eu Henri Pourrat, donc qui est un auteur décédé en 1959, dans votre éducation? Vous dites qu'il vous a ouvert à la poésie et même à la littérature du Moyen-Âge. Si aujourd'hui vous êtes l'un des plus grands médiévistes au monde, oui. c'est grâce
oui.
à lui.
Je dois beaucoup à Henri Pourrat, qui est un ethnologue, si on veut, mais qui ne l'est pas vraiment. Et je lui dois beaucoup dans la mesure où il l'est sans l'être. Henri Pourrat est quelqu'un bon qui était d'Ambert, il a préparé l'agro au lycée Henri IV, il a été reçu, et dans l'été, donc à 19 ans, 20 ans, il s'est aperçu qu'il était tuberculeux. Il est rentré chez lui, à l'époque, il y avait que ça à faire, et il a passé 20 ans de sa vie couché le matin dans la fenêtre ouverte et marchant l'après-midi. Puis il s'est marié quand il a été guéri. Et alors, il marchait et il a collecté des comptes. Il les a d'abord utilisés pour des romans, et en particulier pour un grand roman qui a eu un grand succès et que tous ceux qui ne l'ont pas lu le lisent immédiatement, qui est Gaspard des Montagnes. Histoire à 100 histoires, comme on dit, avec un conte qui est le noyau central, une sorte de conte autour. Et puis, il a publié ses contes, et après la guerre, il en a publié 13 volumes, enfin les deux derniers sont posthumes, sous le titre, chez Gallimard, sous le titre « Le trésor des contes ». Mais Poura est un écrivain, et il voit bien que s'il fait, comme pour les ethnologues, s'il reproduit exactement ce que la vieille dame lui a raconté, c'est illisible. De sorte qu'il reconstitue artificiellement, il reconstitue un style oral écrit. Et c'est une prouesse stylistique extraordinaire, le style de Poura est une merveille. Mais du coup, on l'a soupçonné de n'avoir pas de collecte et d'avoir fait semblant de rassembler ses comptes. Et mon ami Bernadette Bricout a fait sa thèse dessus, a montré qu'il y avait vraiment une collecte de Poura. Et alors, Poura a une sorte de nostalgie, évidemment, d'admiration, puis de nostalgie d'une vie de campagne qui se perd. Il y a une peinture de cette vie qui était très proche de moi parce que je passais mes vacances dans un hameau du Morvan. C'était vraiment... n'avait pas changé dans ces années 50. Et... en même temps, il a le don de créer la peur, de montrer la profondeur des bois. C'était quelque chose d'important pour moi. C'est quelqu'un qui a une sensibilité, une foi catholique profonde. Et il vit avec ça, il joue pas avec ça, mais c'est toujours difficile d'en parler, de le vivre. Et la petite inquiétude qu'il y a toujours est particulièrement touchante.
Michel Zinc, si l'on parle de littérature populaire, de contes, je vous présente Lucie Bouteloup, qui est la reine des expressions populaires. Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
C'est la puce.
La puce à l'oreille.
Comme tous les mercredis, votre chronique, donc Lucie, quelle est l'expression de la semaine ?
Au diable vos vers, une expression souvent mal connue et dont on attribue l'origine à différents lieux aux activités peu recommandables. De quoi attiser votre curiosité, j'en suis certaine, mon cher Pascal et Monsieur Zinc également. Mais avant de laisser la linguiste Lynn Saumon nous révéler les secrets de cette expression, je vous propose d'écouter tout de suite les propositions des CM1 de Carole Rossignon à l'école Forest, une école située, Dieu soit loué, en plein cœur de Paris, et non pas au diable vos vers.
Aller en enfer car on a fait une grosse bêtise. À mon avis, on y va au diable avec un veau et une tenue verte.
En fait, comme on a menti, on part vers le diable.
Aller au diable au veau vert, ça veut dire être hanté.
C'est comme une chose ancienne. Cette maison est au diable au veau vert, ça voudrait dire que cette maison est hyper chère.
Quelqu'un qui va à l'enfer alors qu'il voulait pas.
C'est un diable à moitié veau, il est tout vert.
On est dans une situation difficile.
Pour moi, être au diable veau vert, c'est être pourri de l'intérieur, parce que veau vert, ça me fait penser à un veau qui pourrit. Et du coup, ça peut être tout. Une maison qui a des fondations qu'on voit pas, mais qui sont prêtes à s'effondrer, et une personne qui est méchante de l'intérieur.
La puce à l'oreille.
Alors, Lynn Sauman, ils ont été bien inspirés, nos petits CM1.
Oui, oui.
La couleur verte.
Et puis le veau, V-E-A-U, hein, à la place de V-A-U, parce que c'est le Val, en fin de compte. Et eux, ils ont pensé que c'était l'animal, le veau, qui était pourri de l'intérieur.
Mais c'est surtout l'enfer qui les
l'enfer, ce qui est normal, parce que le diable, c'est l'enfer. Donc ça, ils y ont pensé tout de suite.
Bon, on comprend que le diable, c'est quelque chose d'assez négatif.
Tout à fait.
Que donc, a priori, cette locution est assez péjorative. Le veau vert, qu'est-ce que c'est?
Cette expression a diverses origines.
Vauvert qui s'écrit donc V-A-U-V-E-R-T.
Et ça veut dire le val, V-A-L, vert, c'est-à-dire qui contient de la verdure.
C'est le fameux val qu'on retrouve dans l'expression par monts et par veaux.
Tout à fait.
Ou tout par avolo.
Voilà.
La vallée, en fait.
Voilà,
donc,
c'est
la vallée verte.
Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, il y a beaucoup d'origines à cette expression. Il y en a une qui est plus récurrente, hein, qu'on retrouve le plus souvent, qui est historique. C'est qu'il y aurait eu un château de Vauvert qui se serait trouvé au sud de Paris. Et vous savez qu'à cette époque, on était au XIe siècle. Et donc, ce château de Vauvert a été fait construire par Robert II le Pieux, qui l'a habité. Et puis ensuite, ce château a été abandonné. On dit, on raconte que Philippe Auguste, excommunié, l'aurait habité et aurait fait de joyeuses fêtes à l'intérieur, en ne respectant pas tellement les choses sacrées. On a aussi invoqué le fait qu'il y aurait peut-être eu une sorte de cour des miracles, c'est-à-dire des gens qui l'auraient habité, qui l'auraient hanté, qui étaient un petit peu diablotins, que des choses auraient été laissées à l'abandon.
Donc le diable dans le château de Vauvert.
Voilà, exactement.
Mais Vauvert, c'est pas que ce château, on le retrouve aussi ailleurs. On le retrouve où ?
On le retrouve en Camargue, Vauvert.
Mm-hmm.
Et c'est aussi le nom d'une ville. Et les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle s'arrêtaient à Vauvert et là se jouaient des scénettes. Une petite pièce assez comique, et qui s'appelait également des diableries, où le diable était mis en scène. Alors, on revendique aussi peut-être cette origine. Et puis, il y a un autre Vauvert qui se trouve également près de Nîmes, où les protestants auraient détruit un sanctuaire qui était dédié à la Vierge. Donc, sacrilège, là encore.
Dans tous les cas, tous ces Vauverts étaient donc considérés comme étant loin de la capitale,
voilà.
Et puis des lieux dans lesquels il se passait des choses fort peu recommandables.
Exactement, on dira les choses pudiquement.
Et puis l'expression « aller au diable » depuis le XVe siècle, ça veut dire « aller loin ».
Oui, c'est ça.
Donc en fait, on a ajouté ce Vauvert avec « diaboliquement loin »
voilà.
À l'expression « aller au diable ».
Voilà, « aller au diable ».
Qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme à cette expression « aller au diable Vauvert » ?
Aller très loin, partir au loin.
C'est à perpète.
Ah, perpète, pas mal.
À perpète, qui est donc la contraction de perpétuité.
Voilà.
C'est aux antipodes.
Aux antipodes, ça c'est beaucoup plus soutenu.
C'est à mille lieues.
Ah, c'est à mille lieues de, tout à fait.
Mille lieues.
ES à la fin. Hein.
Absolument. Au milieu de nulle part, c'est paumé quoi.
Ah, très bien, paumé.
Est-ce que vous savez qu'en Allemagne, quand on envoie quelqu'un au diable Vauvert, on l'envoie là où pousse le poivre ?
Ah tiens.
Ou encore là où renard et lièvre se disent bonne nuit.
Ah, c'est joli, ça.
Inspiré. En Espagne, on les envoie là où le vent fait demi-tour, ou bien à la colline du diable.
Là, on revient au diable.
Eh bien, Lynn Sauman, je n'oserais vous envoyer au diable Vauvert, même si vous quittez nos studios. Restez quand même avec nous dans votre cœur. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous rendre visite dans la Puce ces dernières semaines. Je rappelle aux auditeurs que vous venez de faire paraître aux éditions Larousse 15 minutes par jour pour jouer avec les mots. Je leur rappelle également qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur le site de RFI Savoir, Savoir avec un S. À très bientôt peut-être.
À très bientôt et c'est avec plaisir que je suis venue et merci de m'avoir invité.
Merci à vous Michel Zin. Qu'y a-t-il des expressions ou des proverbes qui, comme ça, qui vous viennent à la mémoire, qui viendraient directement de votre cher Moyen-Âge ?
Ah, mon cher Moyen-Âge, on aime tellement les proverbes qu'on en trouve partout, que souvent ce sont des refrains de poèmes, des refrains de ballades, autant on emporte les vents, par exemple, chez Villon, et qu'il y a des recueils de proverbes. On trouve dans des manuscrits des proverbes à la file, c'est un peu comme Henri Pourrat faisait avec les expressions, et certains frappants. Ceux qui me viennent à l'esprit sont pas convenables, mais c'est parce que je suis
d'accord. Allez-y, enfin, un seul.
Non, je pense à un seul, mais on a tellement envie, souvent envie de l'employer, qui est qui mère de brasse, mère de boive.
C'est pas mal. Michel Zoc, merci beaucoup. Seuls les enfants savent lire est édité aux belles lettres et l'on vous retrouve bien sûr sur la page RFI.fr et sur la page Facebook de l'émission de Vive Voix. Pascal Paradou à la présentation, programmation, Véronique Durand et Yael Co, Ludivine Amado à la réalisation. On se retrouve demain.